Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 3 septembre 2025, c'est la rentrée. Enfin, c'était la rentrée il y a deux jours, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est la semaine de la rentrée, on va dire. Et puis, franchement, j'ai pas grand-chose à vous dire. En fait, c'est bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a peu d'actu ces dernières semaines. Ou alors, je sais pas, peut-être que j'étais pas dans un mode de les collecter, ou peut-être que juste je me suis trop habitué à laisser passer les news, ou je sais pas. Mais vraiment, côté IA et même no-code, finalement, c'est très très calme. C'est très très calme. Alors, bon, il y a quand même la petite news d'hier que Anthropic a levé encore je ne sais pas combien de centaines de millions et qui valorise la société à je ne sais plus combien de milliards. Voilà, comme je vous reporte la news de manière en plus très approximative. Mais parce qu'en fait, je trouve qu'à ce stade, les sommes ne veulent plus rien dire, quoi. C'est-à-dire, OK, on a compris que de toute façon, les fabricants les éditeurs de LLM, ou je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, ont besoin d'énormément de fonds. D'ailleurs, j'ai vu une interview très intéressante de Dario Amodei, donc qui est le CEO de Anthropic, faite par un des fondateurs de Stripe, Patrick Collinson. Il me semble, je vous mettrai le lien dans les. Parce que c'est pas mal, parce qu'en fait, il explique notamment. Alors, déjà, j'ai beaucoup aimé le format de ces interviews. Donc, Patrick Collinson est irlandais, il me semble, fondateur de Stripe. Enfin, c'est deux frères, en fait, Patrick et enfin, j'ai oublié le nom de l'autre. Mais bon, bref, ils sont deux frères. Et donc, en fait, le podcast, le mec, il a son studio. En fait, ils ont fait aménager un studio qui ressemble à un pub irlandais. Et en fait, ils boivent une pinte de Guinness en discutant avec leurs invités. Et je trouvais ça assez stylé. Ça se voit que ce n'est pas un vrai pub. C'est vraiment un studio qu'ils ont fait aménager. Bon, Stripe est une société qui marche très très bien, donc ils peuvent se permettre, je n'ai pas besoin de ce genre de fantaisie. Ça m'a un peu fait rêver, j'avoue. Mais bon, bref, je me suis égaré sur mon propos. Mais en tout cas, dans ce podcast, que vous pouvez regarder en vidéo, donc comme ça vous verrez le décor, en fait, Dario Amodei explique notamment le business model des LLM et pourquoi il y a besoin de lever autant de fonds et aussi comment en fait ils rentabilisent, parce qu'en fait il explique que notamment ce qui coûte très cher c'est l'entraînement des modèles, que ça coûte de plus en plus cher, mais qu'en fait à chaque fois, chaque modèle, en quelque sorte, ils le rentabilisent. Mais comme ils doivent, pendant qu'ils rentabilisent un modèle, ils sont en train de payer pour le modèle d'après, on a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de perdre de l'argent. Franchement, c'est hyper, hyper intéressant. Ça a l'air d'être un personnage aussi assez, assez intéressant. Voilà, je vous mettrai les liens. Donc ça, c'était une chose que j'ai vue cet été. J'ai un peu moins regardé de vidéos YouTube cet été. Je me suis complètement lassé des YouTubeurs IA un peu classiques qui commentent les actus. Bon, cela dit, même eux, ils ont pris un peu des vacances. Même notre ami Ludo Salen a pris des vacances. Alors, il a fait quand même une vidéo un peu en freestyle avec son téléphone pour commenter GPT-5. Franchement, une vidéo qui était vraiment inutile. Et depuis son lieu de vacances, mais il s'est forcé à la faire parce que je pense qu'il se sentait obligé de réagir à l'actualité. Vraiment, une vidéo qui ne servait à rien du tout. Mais bon, voilà, et c'est un peu calmé. Mais sinon, même les autres, franchement, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Des nouveaux modèles, c'est la guerre entre les différents éditeurs de code augmentés par IA. Vraiment, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce qui vous marque. Pas que dans le vibe coding, hein, parce que même si le vibe coding, c'est mon sujet du moment, mais je m'intéresse quand même évidemment toujours beaucoup aux outils no-code et puis à l'IA, hein, toujours évidemment, mais même au sens large. Mais je trouve que voilà, vraiment, ce que je pense depuis un moment, on y est, hein, c'est-à-dire qu'on est à un plateau. Même GPT-5, qui a fait un peu de buzz quand il est sorti, bon, voilà, maintenant, bah, ça y est, c'est déjà très vite rentré dans les mœurs, et puis il marche. Je pense que, en fait, voilà, hein, tous ces modèles, maintenant, ils marchent bien, et puis on est sur des évolutions mineures, mais par contre, sur les usages, on voit des choses intéressantes. Ce que j'aimerais vous partager quand même, par contre, un usage vraiment là, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé cet été, c'est le serveur MCP de Tally. Alors, le serveur MCP, si vous ne savez pas ce que c'est, vraiment, j'ai fait des vidéos dessus, tout le monde en a parlé, et puis le buzz est retombé. Mais maintenant, justement, maintenant que le buzz est retombé, eh ben, on commence à voir ce qui surnage du buzz et ce qui est utile potentiellement. Alors, il y a des serveurs MCP qui sont utiles pour le vibe coding, mais pour les usages au quotidien, moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, pour être tout à fait honnête. D'autant que maintenant, les assistants, les Claude et ChatGPT ont développé leur propre connecteur. Enfin voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de gérer l'histoire de MCP. Mais voilà, Tally, donc qui est un outil pour créer des formulaires, ça m'a été très très utile. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, moi j'ai pas mal de projets. J'ai le cercle des Ops où je fais des cohortes, par exemple. J'ai pas mal de projets, la formation guide que j'ai lancée, que j'ai relancée hier, hein, d'ailleurs. Bon, je vous mettrai le lien, évidemment. Mais donc, et donc, j'ai souvent des formulaires à faire. J'ai souvent des formulaires à faire pour eh bien, demander des feedbacks aux apprenants des formations, pour préqualifier en amont des formations. Voilà, il y a pas mal de choses à faire qui sont intéressantes. Et donc, faire des formulaires, moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. Ça me gonfle. Et même si avec Tally, c'est quand même assez agréable et ça va assez vite, c'est un peu à la Notion, franchement, c'est long. Surtout, on fait un formulaire avec 10 questions. C'est long à faire. Et en plus, moi, vous vous en doutez maintenant, toutes les questions d'un formulaire, moi, globalement, tout mon marketing, tout mon admin, toute mon organisation de projet, je la fais avec Claude. Donc, quand je parle, par exemple, que je prépare la fin de ma cohorte du summer camp, par exemple, de cet été, eh bien, je discute avec Claude et c'est lui qui me suggère des questions, puis je les ajuste, etc. Mais donc, après, je dois aller encore copier-coller tout ça dans Tally, c'est franchement pénible. Avec le serveur MCP, vous vous en doutez, eh bien, vous pouvez demander à Claude d'aller créer vraiment, littéralement, le formulaire. Alors, au début, j'ai eu des petits bugs un peu, il faut quand même bien lui dire dans quel espace de travail le faire, enfin, il y a des petites subtilités, mais globalement, ça marche très bien. Il crée toutes les questions. Vraiment, c'est mieux vaut commencer par faire des petits formulaires puis un peu itérer. Mais ça marche bien. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais bon, ça ne change rien. Ça ne vous coûte pas plus cher ou moins cher, hein, parce que de toute façon, ça rentre dans votre forfait Claude. Donc ça, vraiment, un usage vraiment magnifique qui va me servir à nouveau. Parce que franchement, des formulaires, j'en ai pas 2-3 par mois à faire. Parce que chaque fois que je lance un nouveau projet, une formation, une cohorte qui se termine, alors, je peux en réutiliser hein, aussi, évidemment, mais voilà. Et petit bonus, un truc moi, que j'adore, c'est que je ne me prends même plus la tête. Après les réponses, je fais un export de mon CSV, je le donne à Claude et je lui demande d'interpréter les réponses. Je les regarde moi-même aussi, hein, évidemment. Mais avant, j'allais dans Airtable, j'exportais les données dans Airtable, puis je faisais des traitements un peu, je triais les réponses, les trucs et tout. Je faisais un peu de scoring, de choses comme ça. Là, franchement, je demande un résumé à Claude et franchement, c'est super. Donc, vous voyez, au niveau de la bureautique, je ne sais pas pour vous, hein, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos petites astuces du quotidien, mais ça, c'est sûr que ça sert beaucoup de manière générale. Mais bon, parce que c'est le cas de beaucoup de gens maintenant, ben c'est vrai que l'IA, je ne peux plus m'en passer pour mes projets. J'essaye de l'utiliser à bon escient pour des tâches un peu de haut niveau. Mais c'est vrai que ça m'accompagne maintenant, et parce que je suis quand même pas mal seul dans les nouveaux projets que je fais. Alors j'essaye de trouver des gens. Hein. Par exemple, je travaille maintenant avec Rachid sur les cohortes du Cercle des Ops, donc on discute ensemble. Mais il y a des choses aussi que je dois préparer tout seul de mon côté. Et donc ça m'aide énormément, brainstormer. Là, je suis en train de lancer la prochaine cohorte, revoir le marketing, justement traiter les retours des premiers élèves, toutes ces choses-là, améliorer la landing page. Voilà, ça m'aide beaucoup. Évidemment, il y a aussi une petite partie vibe coding quand je travaille justement sur les sites web, les landing pages. Mais voilà, c'est vraiment hyper, hyper intéressant tout ça. Voilà, donc, comme toujours, hein, concentrons-nous sur les usages, sur les choses intéressantes que l'on peut faire au quotidien avec ces outils plutôt que de commenter la technologie en elle-même. Je trouve que, voilà, on n'est plus à ce... Ça n'a plus de sens. D'ailleurs, je trouve qu'on a encore un bon exemple de ça avec les outils d'édition d'image. Là, on a eu le nouveau modèle que vous avez sûrement entendu parler, le nouveau modèle d'IA d'édition d'image de Google, dont le nom de code était Nano Banana. Donc en fait, son vrai nom, c'est Gemini Flash 2.5 Images, qui est effectivement très impressionnant, qui génère des images, mais qui permet surtout de modifier des images. Vous pouvez demander vraiment tout ce que vous voulez, ça remplace Photoshop, sauf que en plus, moi, le Photoshop, je n'ai jamais réussi à m'en servir, donc c'est vraiment incroyable. Mais quand on regarde les commentateurs, les exemples qu'il y a sur X, n'importe où, je pense que c'est que des choses qui servent à rien, quoi. C'est que des usages qui servent à rien. C'est toujours des choses hyper, hyper triviales. Et je ne dis pas qu'il y a des choses qui servent à rien. Sur les images, quand même, il y a beaucoup de choses où je trouve que l'IA, c'est souvent un peu un marteau pour écraser une mouche. Mais bon, je veux dire, des fois, ça me fait bien plaisir parce que vraiment, je suis vraiment très, très nul graphiquement. Mais bon, j'essaye aussi de faire attention parce que je trouve que c'est quand même, ça consomme beaucoup de ressources pour pas forcément grand chose. Mais bon, voilà, il y a voilà, toujours faire preuve de discernement et de mesure. Mais typiquement, voilà, dès que les commentateurs ils montent des choses, franchement, ça, c'est un peu ridicule, quoi. C'est que des exemples qui n'ont ni queue ni tête, pas des choses concrètes de la vraie vie, quoi. Donc voilà, donc bon, je pense qu'il faut faire un peu attention à tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, les fenêtres de contexte qui s'augmentent, tout ça, je pense que ça sert pas grand-chose de le commenter. Mais clairement, les LLM sont très puissants. C'est ce qui devient compliqué, c'est vraiment de bien choisir les modèles. Mais bon, voilà, franchement, des fois, je me pose des questions de vraiment est-ce que je devrais continuer à faire ce podcast parce que en fait, je sais pas s'il y a toujours des choses à dire, quoi. Alors après, sur la partie vibe coding, là, il y a toujours des choses à dire, mais c'est plus difficile à dire en podcast parce que c'est très visuel. Alors, je suis très content parce que là, depuis la semaine dernière, j'ai repris mes lives et vraiment, j'adore. Ça m'a un peu libéré, je dois dire, d'avoir ma propre chaîne Twitch. Et donc, voilà, je vais live, je pense, 2-3 fois par semaine facilement parce que vraiment, j'adore. Et puis, c'est du temps où, voilà, dès que je lance la caméra, ça me donne une énergie super et j'adore. Et pour moi, j'ai la chance d'avoir des gens aussi qui regardent, avec qui on échange, avec qui on progresse. Hier, notamment, j'ai fait un live où très franchement, j'étais très content d'avoir Xavier avec moi dans le chat pour discuter parce qu'on parlait de choses assez techniques. C'était un live d'ailleurs un peu trop technique, je trouve, pour moi, pas forcément moi en tant que personne, mais pour le contenu que j'ai envie de produire et pour les interactions que j'ai envie d'avoir avec le chat et pour l'audience que j'ai envie d'avoir. On était quasiment sur des sujets vraiment de développement, de code, et donc sur un niveau d'abstraction un peu trop proche du code. Mais bon, c'était quand même intéressant parce que voilà, même moi, j'explore ces choses-là. Donc je pense qu'on a tous appris des choses en faisant ce live, en regardant peut-être, j'espère, mais c'était quand même pas très funky. Donc voilà, mais bon, il y en aura comme ça c'est un peu l'idée, et je pense que je mettrai pas toujours en ligne les replays, d'ailleurs, parce que certains replays, je pense, ne serviront à rien, et petit à petit, je pense que je ferai de moins en moins de lives sur la chaîne YouTube aussi, pour gagner ce côté un peu spontané, et un peu, voilà, il y a des lives, ils vont juste vivre le temps du live, et puis une semaine sur Twitch après, et puis voilà, et puis on les gardera pas. Sauf s'il y a eu des leçons vraiment très intéressantes, mais je pense qu'il y a des lives aussi où vraiment c'est juste moi qui vais pratiquer, et ensemble on va discuter, on va prendre des choses, mais on va se casser les dents. Un peu comme quand un développeur travaille sur un projet, hein. Cette frustration, on peut l'avoir aussi avec les outils no-code, on l'a encore plus avec le vibe coding. En même temps, c'est le bon moment pour se casser les dents sur des choses et apprendre, et suivre les évolutions. Mais bon, je sais pas si c'est toujours funky à regarder. Voilà, ça c'est un peu la question que je me pose par rapport à tout ça. Et à débriefer, voilà, il faut que je commence à préparer des débriefs un peu structurés et puis commencer à produire du contenu un petit peu plus, moins spontané, mais un petit peu plus structuré justement sur ce que j'ai appris du vibe coding. Mais j'ai toujours la sensation d'être dans cette étape de pratique. Et d'ailleurs, je commence à réfléchir à aussi, plutôt que de faire des formations, de faire peut-être plutôt des petites cohortes de pratique du vibe coding. On a déjà bien lancé, là on lance la deuxième cohorte pratique des outils de no-code ops, d'automatisation et tout, mais je pense que j'ai envie de tenter des formats vraiment autour du vibe coding en utilisant les challenges du cercle des ops, mais vraiment toujours être dans cette dimension de pratique, parce qu'en fait le vibe coding, oui, il y a des fondamentaux à comprendre, mais c'est les fondamentaux du code. Et ceux-là, il faut que je les isole, et que, comme j'ai fait avec Git. Mais sinon, après, c'est que de la pratique, quoi. C'est que de la pratique, choisir les bons outils, et puis pratiquer, trouver les bons exercices, faire des trucs. Voilà, je pense que ça va être important, quoi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, en septembre, il va y avoir beaucoup de lives. J'ai quelques engagements, alors en plus en septembre, une conférence. La conférence à Rennes qui me prend un peu la tête parce qu'il faut faire les slides. Et en plus, moi, j'aime bien faire des slides. En plus, là, aujourd'hui, ils nous ont dit qu'il allait falloir faire les slides avec leur template à eux. Et ça m'emballe pas du tout. Donc bon, il faudra que je vois comment je puisse un peu twister ça parce que franchement, ça me prend un peu la tête. Bon, de toute façon, voilà, c'est pas un sujet très grave. J'ai hâte de vous partager le replay de cette conférence parce que je pense qu'elle va être pas mal. Il faut encore que je la termine, mais bon voilà, une fois que je serai libéré de ça, à partir du mois d'octobre, j'essaie de prendre aucun engagement, il y aura la cohorte Mais il y aura aussi, voilà, on va faire des lives, on va produire du contenu et puis on va commencer à réfléchir un petit peu à la suite. Voilà, franchement, cet épisode de podcast, vraiment, je vais le couper là parce que je pense que c'est un peu, j'avais envie de lancer l'enregistrement et en même temps, je savais que j'aurais pas grand chose à dire. Et donc, voilà, c'est un peu mes états d'âme, mes circonvolutions, mes réflexions autour de l'IA et de mon activité. Mais bon, je voulais le faire aussi pour relancer un petit peu la machine. Je suis en train de réfléchir aussi à ma newsletter, comment la faire. Trop de questions, trop d'incertitudes, la communication. Il n'y a vraiment qu'en live, en fait, que je me dis ce qui est bien quand on est en live, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir à tout ça, il n'y a pas à faire des plans sur la comète. Il faut lancer la caméra, il faut avoir un sujet, et puis on y va, on fait quelque chose. Après, il faut que ça intéresse les gens, évidemment. Mais voilà, ça, c'est un peu... Mais bon, il faut trouver un équilibre un peu dans tous ces contenus à créer. Et puis, on va arriver à faire des choses chouettes. Si vous avez des idées, comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire des choses. D'ailleurs, je suis toujours très content. Hein, on m'écrit beaucoup en message privé pour me partager des choses que vous avez fait, que vous avez construit, vos retours sur voilà, des outils que vous avez testés, qui étaient satisfaisants, pas satisfaisants. C'est hyper cool. Donc, vraiment, continuez. Merci. Et puis, si vous pensez aussi qu'il y a des news à côté desquelles je serais passé, que j'aurais pas commenté, mais que j'aurais dû, bah, n'hésitez pas, on sait jamais. J'essaye de... Peut-être que... Je pense que là, cet été, j'ai un peu shifté d'état d'esprit, j'ai un peu décroché sur certains trucs. Donc, il va falloir que je me remette un peu dans le jus, dans le bain, mais ça va être intéressant. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Salut.